89.1 MHz. Et oui, bonjour et bienvenue, nous sommes le 23 juillet 2005, c'est l'été, waouh, super. Et comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, non, pas de cinéma cette semaine. Puis ensuite le cahier du sport à partir de 13h et des pelures, et à partir de 15h du mix avec Yaka Roulé, c'est du reggae, 17h vie d'ordure, c'est du punk back in 77, 20h Last Hetero Experience, 21h30 Liquid Sky, et à 23h Breakbeat Experience.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, enfin bon, avant vous écoutiez Radio, au moins vous écoutez Éphémère. Et c'est Supplément Week-end et on va ouvrir en guise de générique avec un vieux morceau. Let's go back to the rock, let's go back to the rock, let's go back to the rock, go back to the rock, go back to the rock and see it at 440. ça s'appelle faire les archives. Apollo 440, c'était leur premier single extrait de l'album Electro Glide in Blue, Ain't Talking About Love, qui est devenu Ain't Talking About Dub, excusez-moi, simplement parce que le single, le sample original, ils ont eu des petits problèmes, c'était en 97. Xavier avec vous jusqu'à 13h et quelques. On verra du sport donc, on entamera la partie télévision à partir normalement de 12h40 à peu près. Et ensuite, fera son émission sportive comme d'habitude, où il est question de petites reines et de gros dopés. Et de chroniqueurs télé aussi. Ah, surprise! Entre temps, Thomas n'est pas là, et oui, donc je fais une spéciale dédicace à Thomas pour sa bronchite cancéreuse à tendance grippo-encéphalite. Bon, pareil que cela ressemble à une angine. En tout cas, en ce moment, il est chez le médecin, donc tous mes souhaits de rétablissement et tout. J'espère qu'il va se faire bien chouchouter par son infirmière privée, voilà. Et j'espère que ce n'est pas une vraie angine, enfin bon, qui va nous revenir en pleine forme. Allez, tiens bon, Tovarich, heureusement que c'est qu'en été. Ouais, allez, je sais, c'est nul. C'était très nul. Allez hop, zou. On entame les news. Si vous avez envie de vous lancer dans une première expérience bande dessinée, il y a peut-être un moyen. C'est via une revue de bande dessinée internationale qui s'appelle Q International, justement. C'est la première revue de bande dessinée sans parole du monde. Elle est basée en Italie et elle est en train de se préparer de faire un numéro spécial pour les Jeux Olympiques d'hiver qui auront lieu à Turin, donc en Italie, en février 2006. Et pour l'occasion, ces pages sont ouvertes à qui veut bien proposer son sujet, son petit délire, etc. Le sujet, c'est les sports et l'hiver. Les sports d'hiver inusités, le sport contre l'hiver, l'hiver contre le sport. Les meilleures histoires sont donc publiées donc dans Q International. Et pour cela, les histoires doivent être en noir et blanc, totalement sans parole. Ni sexe, ni violence, ça c'est une demande de l'éditeur. Le rapport hauteur-base des planches est de 1,46, c'est-à-dire à peu près la largeur de votre feuille fait 10 cm, la hauteur doit faire 14,60 cm. Et les planches sont à remettre pour le 31 juillet 2005, dernier délai. Et oui, je suis désolé, j'ai eu l'info trois jours après l'émission, la dernière émission qui a eu lieu le 2 juillet dernier. Donc c'est le 31 juillet au plus tard. Et si vous voulez plus d'informations, vous allez sur internet, sur un site web qui s'appelle qpress.info, qpress, qpre2s.info, voilà, et vous en saurez un petit peu plus sur le projet, donc sur ce magazine Q International et leur numéro spécial « Sport versus hiver ». On va commencer sortie bande dessinée avec Détective Conan numéro 46, donc toujours de Gosho Aoyama. C'est en France, dans les pays francophones, donc c'est dans la collection Kana chez Dargaud. Rien à redire de plus donc sur ce détective lycéen transformé en gamin de l'âge de 6 ans. C'est toujours aussi bon, mais peut-être est-ce un peu trop routinier, c'est-à-dire... c'est sympa, mais c'est bon, c'est toujours les mêmes recettes, etc. On essaie de varier un peu le type de meurtre, mais voilà, c'est toujours le même déroulement, c'est-à-dire dans l'ordre, un meurtre pour une jolie étoile filante, un meurtre pour un Stradivarius, la maison hantée d'un maître de poupée, et le principe reste le même, c'est-à-dire on vous présente les protagonistes dans lequel arrive Conan et son entourage, et à partir de là, tout d'un coup va avoir lieu un meurtre, et là la question se pose, mais qui a fait le coup ? Et c'est au lecteur à essayer de trouver qui c'est qui a fait le coup avant Conan. Bon, le seul problème évidemment, c'est que il vaut mieux avoir un minimum de culture et bien se tripatouiller les méninges avant d'arriver de battre de vitesse ce petit gars. Bon, il y a malheureusement plein de pistes qui sont laissées en plan pour, par la manga par rapport à l'intrigue principale, à savoir Conan va-t-il retrouver son corps de lycéen ? Est-ce que les hommes en noir qui ont tenté de l'empoisonner vont finir par le retrouver pour le tuer ? Et Ran, sa petite amie, va-t-elle finalement se douter réellement de quelque chose ou non ? Mais bon, Détective Conan, ça reste une bonne qualité. Si vous ne voulez pas acheter le bouquin, vous pouvez regarder la série qui est diffusée sur France 3, je crois, la série dérivée en animation. Sachant que le bouquin, lui, s'adresse plutôt aux lycéens, tandis que la série télé s'adresse plutôt aux collégiens. Donc il y a une différence d'âge, de niveau. On n'accepte pas. Il y a aussi le fait que France Télévisions a bien utilisé du banc de montage, des fois, c'est-à-dire que... ils hésitent quand même puisque c'est programmé dans la case pour dans la case jeunesse sur France 3. Ils hésitent un peu à passer certaines scènes de meurtre qui sont particulièrement violentes. Ou oui, c'est clair, hein, on peut pas s'amuser à faire comme dans CSI. Et encore, je soupçonne TF1 des fois de d'enlever certains trucs qui sont assez effrayants. Mais bon. Détective Conan, donc le 46e tome, de la lecture pour le train, pour aller à la plage, c'est dans la collection Kanache d'Argos et de Gosho Aoyama. Excusez-moi, du sport vient d'arriver, alors voilà, on se fait la bise. Ah, toi, du sport, tu es sur lunettes, de soleil sur tes lunettes. Ouais, je te laisse le temps de t'installer, peut-être. C'est pas trop gênant, ça, ces trucs, moi, j'ai pas confiance, je préfère les lunettes de vue, tu sais, avec verre solaire. C'est... Ah, ouais, en plus, tiens, ils sont à la bonne taille, moi, j'ai toujours les trucs qui débordaient, bon. Voilà, bon, je le laisse installer. On va parler d'une nouvelle série qui s'appelle Samurai Rising. C'est là aussi, encore une fois, une manga, ça. De la manga qui est scénarisée par Hideyuki Kurata et dessinée par Chutaro Yamada. J'espère que je le dis bien. C'est dans la collection Punch Shonen des Punch Comics. Ce qui paraît ont changé de nom, hein. Bon, je n'en sais pas plus. Shonen, ça veut dire, en fait, gamin, hein. C'est les garçons, quoi. Et c'est une uchronie qui n'est pas inintéressante. Alors, le principe d'une uchronie, c'est-à-dire tout simplement, c'est une histoire parallèle. Il y a un événement qui s'est pas eu lieu, on laisse les choses mariner et on voit ce qui se passe. Et ben là, ce qui ne s'est pas passé, c'est que le Japon ne s'est pas ouvert. C'est-à-dire que l'incident des canonnières américaines qui ont menacé le Japon de détruire les ports si jamais il n'ouvrait pas son marché intérieur n'a pas eu lieu en 1868. Oui, c'était en 1868, vous pouvez consulter vos livres d'histoire. Donc cela veut dire que le soleil levant est toujours enchaîné dans un état de pensée autarcique, autiste, ce que l'on appelait le sakoku. Le shogun, c'est un peu le premier ministre, si vous voulez, il règne toujours sur l'archipel. L'empereur est toujours totalement impuissant puisque la restauration Meiji n'a pas eu lieu. L'ordre public est toujours maintenu par des samouraïs qui ressemblent plus à une espèce de pègre armé de katana qu'à de valeureux chevaliers suivant leur code de l'honneur, le fameux Bushido. C'est l'histoire d'un garçon, Sanjuro, qui est révolté par cet état qui est pourri jusque dans son cœur. Alors, il est lui-même orphelin de Korumaya, l'ex-maître d'armes du shogun. Il a décidé de se révolter et de vouloir restaurer l'esprit du shogun, du Bushido, excusez-moi. Donc, d'être un vrai samouraï, de rappeler ce qu'est être un samouraï. Alors, évidemment, il ne va pas être transformé en sashimi dans les premières pages. Et bien sûr, la série va vite tourner à la suite de combats médiévaux fantastiques, dignes du beat'em up de console. Mais cela reste un agréable moment de lecture qui correspond tout à fait à la cible des collégiens japonais. Pour les francophones, même si les notes de fin de volume de Punch Comics sont assez utiles, un minimum de connaissances sur la naissance du Japon moderne, c'est-à-dire la fin de l'ère Edo, la restauration Meiji, c'est sacrément utile pour y percevoir autre chose qu'une suite de combats aussi acharnés que dantesques. En clair, cultivez-vous, bande de papins, scarabée. Et là, voilà, et spéciale dédicace à Manu qui est prié de ranger son sabre. Il est midi 16 sur Radio FMR, vous écoutez Supplément Week-end et on va passer Titan 1000 Ninja. Et voilà, 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 ça cause. Parler d'un truc, on en reviendra dans les semaines prochaines. Il s'agit du podcast, puisque cette émission est désormais écoutable sur pour les nantis qui ont le dernier ordinateur trucmuche, le dernier logiciel de la firme fruitée ou un baladeur MP3.
Quand ça marche.
Figure-toi que ils ont de la chance, ils nous écoutent sûrement mieux que par la FM, les bandes d'enfoirés.
Bah. Ouais, ça c'est vrai.
Bon voilà, j'ai rien à dire parce que j'ai été chargé pendant 4 ans de la diffusion FM sur FMR. C'est un boulot qui est assez difficile. Voilà. Je tenais à parler d'une bande dessinée que j'adore. Il s'agit de Mo et de CDM, le duo qui déchire sa race dans chez Fluide Glacial, puisqu'ils nous ont déjà produit un Cosmic Roger d'anthologie, le cosmonaute chargé de sauver la race humaine de la surpopulation aiguë de la Terre. Et donc d'une autre série qu'ils font à côté qui s'appelle Forbidden Zone, dont le deuxième tome vient de sortir, il s'appelle La Théorie du Chaos, et ça se passe donc dans le désert du Nevada, où il n'existe pas un bâtiment militaire archi-secret dans lequel il n'existe ni mutants, ni aliens, ni savants fous, ni généraux chargés de maintenir le tout parfaitement sous silence. Ouais, que dalle. Et au milieu de ce grand rien de la Grande Muette officie le professeur Wild Hoffman sous la tutelle du général en chef de la base. Et y a pas à dire, ils ont pas leur pareil pour déclencher des catastrophes qui menacent l'avenir même de l'humanité et de notre galaxie. C'est là, à ce moment-là, que l'on sait à quoi ont servi les milliards de brousoufs investis dans ce complexe militaro-industriel top secret. Ceux dont sont capables... Ceux dont sont capables les savants pour espérer un jour avoir droit au prix Nobel de l'ignominie, les généraux pour assouvir tous leurs fantasmes sexuels si la Terre menace d'être complètement détruite d'ici quelques minutes. Heureusement qu'on peut en rire puisque tout ça n'existe pas. Enfin bon, rien, nada, que dalle. Envoyez-moi ça un peu le ton d'exécution, ça continue à y croire dur comme fer. Ah oui, par contre, j'adore le coup du bulletin de participation dans la page de garde. C'est très bon, je fais le pari d'y participer, donc je vous le dis de suite. Si vous achetez le second tome de Forbidden Zone, La Théorie du Chaos, chez Fluide Glacial, sachez qu'en page de garde, il y a un bulletin de participation pour partir une semaine sur Pluton, mais il faut que ça soit renvoyé avant le 30 décembre 1923. Je fais le pari d'y participer et j'irai jusqu'au tribunal s'il le faut. Enfin, bon, voilà. Kaji Kawaguchi, c'est un dessinateur que vous connaissez relativement peu et qui a eu beaucoup de succès au Japon, mais grâce à une série en fait qui est sortie il y a un certain temps, c'est une série qui est sortie en 1998, qui s'appelle Hegel, et figurez-vous qu'elle vient de sortir dans la collection Seinen Manga, c'est-à-dire en fait... Seinen, ça veut dire adulte, si je ne suis pas trop rouillé. Donc c'est aux éditions J'ai lu. On va vous expliquer un peu le principe. C'est en fait un manga qui se veut docu-fiction, si vous voulez. Et ça se passe en fait aux États-Unis. Dans le système électoral américain, les deux principaux candidats sont issus d'un système relativement complexe de sélection qui sont propres à leur parti. Ça s'appelle les primaires. Une période à la fois de campagne électorale et d'élections permanentes qui s'étale sur 4 mois, puisqu'en fait on fait voter État par État, enfin groupe d'État par groupe d'État, pour désigner qui sera le champion du parti en question, soit du parti démocrate, soit du parti républicain. Alors que la course finale n'est pas encore lancée, c'est un financement énorme qui est déjà dépensé pour la propagande d'hommes politiques qui aspirent à être le chef de l'État le plus important du monde. Être un journaliste embarqué dans ces primaires, c'est une chance. Cela permet de se faire connaître du candidat, de son équipe, de ses conseillers et aussi de ses adversaires du même bord. Et si jamais ce candidat remporte les primaires et qu'il se retrouve élu président, eh ben c'est la place assurée au premier rang pour les conférences de presse à la Maison Blanche. C'est avoir l'insigne honneur d'être appelé de son prénom par le chef de l'État pendant les directs. Bref, c'est total classe devant ses collègues face à qui on peut se la péter en général. Hein. D'ailleurs, si vous regardez les conférences de presse, vous voyez que le président désigne du doigt et dit « Oui, Sophie, oui, Jean-Marc, oui, quelle est la question ?» Bref, on peut se la péter en général. Au lieu de prendre un journaliste d'une rédaction nationale, Kenneth Yamaoka va faire appel à un journaliste d'un journal étranger, d'un quotidien japonais, et va recommander directement un correspondant local d'une rubrique sociale. Inutile de dire que cela est à la fois une promotion exceptionnelle pour le journaliste, je vais parodier un peu du déproche, je veux dire pour le petit plumitif, et c'est fortement intriguant, à la fois pour l'entourage de Kenneth Yamaoka, mais aussi pour le journaliste lui-même et son équipe. Surtout que Takashi, eh bien, il vient à peine d'enterrer sa mère qui ne lui a jamais dit qui était son père. Bon, inutile d'en faire des mystères, on le saura très vite. C'est donc avec son œil totalement étranger à la politique intérieure américaine que Takashi va décrire de l'intérieur cette armée de militants bénévoles qui soutiennent les candidats, le processus des primaires, qui est la base même de l'exécutif américain, les moyens de soutien, de financement, d'incitation au vote, le travail des spin doctors, la stratégie du minage de l'adversaire, la publicité négative, le soutien des proches et aussi son propre passé. C'est très bien écrit, c'est très bien mené et c'est vraiment passionnant. Bon, maintenant, attaquons les erreurs. Parce que il y en a. Le scénariste n'a visiblement jamais mis les pieds aux États-Unis. En plus, il décrit la femme de l'homme politique comme une personne effacée à la japonaise. Au contraire, aux États-Unis, elle est même très fortement impliquée. On pense bien sûr à Jackie Kennedy et à Hillary Clinton qui ont déteint en France sur, par exemple, Bernadette Chirac et Cecilia Sarkozy. On a des styles un peu différents, hein, mais c'est à peu près ça. Autre problème, c'est l'édition française. J'ai lu a toujours eu un flashage assez déplorable. Les trames, les grisées deviennent des bouillies immondes. Aucune notice n'est donnée en bas de page ou en fin de volume. Les polices de caractère choisies pour le lettrage fatiguent assez vite les yeux. Et les ballons auraient parfois bénéficié d'un retaillage un petit peu plus judicieux. Il est dommage que depuis leur publication de manga, ils avaient commencé avec City Hunter, plus connu en France sous le nom de Nicky Larson. Eh ben, ça fait pratiquement 7 ans que je fais toujours les mêmes remarques, surtout pour une BD aussi intéressante. Cela risque en rebuter plus un. Le gros avantage, c'est le prix. Donc, Eagle, dans la collection Seinen Manga chez J'ai lu, les deux premiers tomes sont sortis simultanément, c'est Kaiji Kawaguchi, et c'est l'occasion de les dire, c'est un peu en dehors de la période électorale américaine. On sait jamais, achetez-les-vous, commencez à les lire, vous verrez, c'est plutôt passionnant, c'est un docu-fiction. Et voilà, je me préparais en fait à mettre le fond sonore pour la chronique suivante et là j'ai la régie publicitaire qui vient d'appeler qui me fait remarquer qu'il est très exactement midi 28 minutes et 52, donc je dois passer the pub. Allez petite bête, zou.
Le chat, vas-y, vas-y chat, viens là bâtard, viens là, viens là.
Vendredi 29 juillet, Lasbordes, petit bourg à l'église romane qui étale ses toitures et ses balconnets fleuris entre Carcassonne et Casnodari, ouais, sera le lieu de perdition du commando sudiste.
Femelle, petit caniche, peluche pour vieux, la perruque.
Commando sudiste qui ont invité Gigi Balparès, Rouletaboule et les Buanabou, les beautés vulgaires, les Castafiore, les Soustraya, les ogres de Barbac, Didier Super et même les Scapés qui donneront leur dernier concert en France avant leur split estival.
Petit caniche, peluche pour vieux, c'est parce que mémé elle t'aime bien qu'un jour elle va t'empailler.
Les pavés de la petite bourgade risquent donc de porter encore longtemps après que les commandos soient repartis au front. Les traces de la petite beuverie sous la forme de petites croûtes de vomi vinasseux sur lesquelles viendront se greffer un jour de petites mousses. Le cycle de la vie, quoi.
Ta mère avant que tu naisses, elle a été avec plein d'autres chiens.
Fiesta des commandos sudistes, vendredi 29 juillet à Lasbordes d'Anlod.
Et entre nous, ça arrache vraiment un max. Voilà. Pub suivante.
Si tu cherches l'impulsion cet été, sache qu'elle pourrait te venir du Médoc. Les impulsives. festivals de musique actuelle se tiendront les 29, 30 et 31 juillet en la citadelle de Cussac, Fort-Médoc. Au programme, le vendredi, soirée drum and bass avec les prestigieux Fresh, G-Magic, Flobé, Elisa do Brasil, épaulée par MC Jamalski et Dynasty, Miss Ficelle et MC Reniga, Xindamix et Cliff Barnes. Le samedi, trois scènes, trois sons, une techno avec la fine fleur du label allemand Compact, et le Chicago Boy Jeff Miles. Une autre dub trance où se produiront entre autres les improvisateurs dub Brain Damage, Chaophonic Tribu. Et enfin une scène hardcore avec Manu le Malin, Radium en live, 69 dB et MC Tabloïd, Deyan et bien d'autres. La fête se finira en beauté avec les prestations dominicales des Too Many DJs, du Haker et de Jennifer Cardini. Les Impulsives, c'est rien que du bon, les 29, 30 et 31 juillet à Cussac, Fort-Médoc.
Voilà, alors si vous savez pas quoi foutre cet été, au moins vous savez ce qu'il vous reste à faire. Écoutez Radio Éphémère, il y a plein de trucs qui va cartonner un max. Du sport quand il aura fini de rouler ses pouces. Je monte son micro. J'ai une question à te poser. Quel est le personnage le plus dangereux dans l'univers Marvel ?
Là, c'est la question qui tue, là.
Bon, allez, un truc d'actualité en ce moment.
Dans les méchants ou dans les...
On ne sait jamais, en fait.
Hein ?
On ne sait jamais.
The Punisher.
Ouais, c'est facile, t'as la réponse sous l'œil.
Ah ouais. Donc... Qui est d'ailleurs visible, le film, la version complètement un petit peu à moitié azimutée,
ouais.
Avec Thomas Jane dans le rôle principal, passe sur kiosque en ce moment. Hein.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer pour l'avoir ?
Bon, allez, on va attendre que ça soit gratuit peut-être. Pour...
Oui, je crois aussi. The Punisher, donc c'est l'histoire de cet ancien béret vert qui, lors d'un pique-nique à Hyde Park à New York, voit sa famille, sa femme, ses deux enfants chéris tués devant ses yeux à cause d'un règlement de compte entre deux petites frappes, et il a décidé de nettoyer les rues de New York à sa sauce, c'est-à-dire en arrosant à coups de gros calibre. Bref, en clair, c'est un violent. Un justicier, c'est-à-dire le genre de mec complètement malade qui ne pense qu'à une chose, la justice expéditive. Sur un scénario de Garth, je te mets du sang partout, Ennis, et un dessin de Lewis La Rosa, Panini France donc a traduit chez Max Comics Marvel France un deuxième one-shot de The Punisher qui s'appelle Au Commencement. Le Punisher décide d'allumer le clan mafieux italien de New York, de couper les têtes de la pieuvre. C'est-à-dire, en clair, il a décidé d'assassiner toute la pègre italienne de New York, en commençant par les gros, c'est-à-dire en asséchant de la sorte le financement de la drogue. Mais il ne finira pas son travail, il va se faire arrêter par Micro, son fidèle compagnon d'armes, car ce dernier lui propose de travailler pour la CIA, plutôt que de faire une guerre sans fin contre le terrorisme, contre le crime qui ne fait qu'alimenter la violence des rues. Voilà pourquoi ne pas s'attaquer au terrorisme international, à Al-Qaïda. Un bouquin qui est subitement revenu d'actualité dans la patrie d'origine du scénariste. Eh oui, malheureusement, parce qu'un scénario de Garth Ennis, ça veut dire des morts avec des souffrances particulièrement insoutenables. Ceci uniquement afin de soutenir le propos politique de l'intrigue, bien sûr. Et je vais enchaîner justement sur le terrorisme pur et gratuit, sur la télévision, sur ce qui s'est passé jeudi de cette semaine et sur jeudi de il y a 15 jours, jeudi 7, jeudi 21 juillet, même combat. Ce n'est pas le terrorisme qui aura fait déprogrammer ou retarder Julie Lescaut sur TF1, la télé de Sébastien sur France 2, la saga des Dents de la Mer sur France 3 ou la saga des Angéliques sur M6. Non. Quoi que feront les terroristes, le meilleur moyen de montrer qu'ils n'arriveront pas à leur but, c'est de garder la gaudriole pure sur le service public. La franchouillardise est la meilleure arme face à l'intégrisme. Et puis, c'est vrai, si les attentats avaient eu lieu à une autre période qu'en plein été, peut-être que les journaux télévisés auraient été rallongés, puisque là, tout le monde est en vacances, et donc, faut avouer quand même que la couverture de l'événement sur les chaînes françaises a été plutôt pitoyable. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement ridicule. Enfin, bon, avant de partir en vacances, j'avais emprunté à mon confrère Olivier Desprinces de Delirium City, émission qui passe sur FMR de 20h à 21h30 hein, le lundi, le coffret DVD de la seconde saison de 24h chrono. Et en voulant visionner le deuxième DVD, ma télé s'allume sur BBC World. Des malades que Dieu réprouve venaient de fêter à leur manière les Olympiades de 2012. Par un hasard que je ne m'explique pas, je me suis brusquement souvenu de l'étrange constatation du CSA. Selon la fine analyse des 9 sages dont dépend mon émission, les séries NCIS et Agence Matrix verseraient dans l'apologie de la torture tout en dépeignant Guantanamo en sympathique colonie de vacances. Si j'en crois les conservateurs américains dont j'écoute parfois les émissions de radio, paraît que Fox News nous manque pour une info fair and balanced. Ben voyons. Mais justement, en regardant le DVD bonus donc de ce coffret de 24 heures chrono, le reportage sur les 2 derniers épisodes de cette saison, il en ressort une tendance plutôt surprenante. On va parler d'un incident qui n'a rien à voir avec cette série, mais avec cette chaîne de télé. Il s'agit des Simpsons, une série produite là aussi par le réseau hertzien de Fox, qui s'était pris un procès par le réseau câblé de Fox News. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils ont décidé de parodier Fox News en mettant le fameux ticker, vous savez, le déroulant horizontal sur fond rouge, avec des infos vachement inquiétantes sur fond écrit en jaune, comme « Votez démocrate, rampez-d selon une étude très sérieuse, etc. » Ouais, ils se sont pris un procès pour ça. Je sais pas si vous vous rendez compte. Fox News fait un procès à Fox Entertainment pour ça. Attendez, ils sont dans le même groupe, hein, et Fox Entertainment a soutenu. Et ben là, on sent que les producteurs et réalisateurs de 24 heures chrono voulaient exploiter le thème d'une guerre menée pour des intérêts privés et pétroliers. Je vais essayer d'éviter le spoiler en disant que, en fait, l'intrigue, c'est qu'il y a une bombe nucléaire qui va exploser à Los Angeles. Mais je crois que là, je viens de le dire, donc c'est loupé. Bref, on apprend que le script a été validé et même encouragé par la filiale Friction de Fox TV. Donc au sein même de la chaîne de Robert Murdoch, je rappelle que Robert Murdoch est un va-t-en-guerre à la Rudolf Hearst qui possède le Sun, le Times ou encore Sky News. Et donc par la même Fox News dont il soutient activement le côté je vais dire conservateur et info vachement équilibré on va dire la filiale fiction du réseau hertzien Fox tente de discréditer l'œuvre de propagande de Fox News. C'est un bel exemple de schizophrénie. Alors que 24 heures chrono, qui est une série diffusée en hertzien aux USA et qui donc n'a pas la même liberté que les séries produites par HBO par les chaînes du câble, c'est-à-dire il y a 7 mots je crois qui n'ont pas le droit de dire.
Oui, la censure est pas la même. Hein.
C'est vraiment très très différent. C'est-à-dire que
pas de fuck, pas de bitch, pas de nudité frontale. Enfin bon, c'est presque le codeïs, le codeïs un petit peu allégé, on va dire. Hein, c'est ça.
Voilà, exactement. 24 a quand même une image assez violente. On a des scènes de meurtre, on a des scènes de torture qui vire parfois au fascisme, au sens de pouvoir fort. On s'aperçoit que la prod voulait au contraire dénoncer le pouvoir des faucons. Et en voyant ça, franchement, j'ai été scié. Comme quoi, les bonus de DVD sont très intéressants à regarder. Outre le travail dans l'urgence, c'est-à-dire que l'épisode 23, par exemple, est tourné, alors que l'épisode 17 est diffusé sur l'hertzien, les raccords lumière, les raccords couleurs manquent parfois un peu de cohérence. Quand nous avions annoncé les premières rumeurs sur le concept de 24 dans cette émission à l'antenne, enfin ça s'appelait pas encore Supplément Week-end à l'époque, nous étions montrés un peu dubitatifs, on s'est dit on verra ce que ça va donner. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le concept, outre l'exploit technique et de performance et scénaristique, permet aussi de passer quelque chose derrière. Et ça, il faut avouer, c'est très fort. Quant aux 4 tentatives d'attentat à Londres, il faut avouer que cela devient de plus en plus dur de trouver du personnel qualifié. Et oui, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont, même si on les suicide, on va dire, de manière un peu poussée, de manière involontaire. Finalement, on aurait dû leur apprendre Georges Brassens, mourir pour des idées, oui, mais de mort lente. honte.
Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy, Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, 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 girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on the back, she says I'm Mr. Smooth, just like a silk. Sharp and cuddly, yuck me up like a quilt. I'm a lyrical lover, now take me in the field with my sexual disease. You know me well, baby. I'm just like a turtle crawling out of my shell. Girl, you captivate my body, put me under my spell. With your couscous perfume, my love, your sweet smell. You're the young girl who can ring my bell. And I can take Richards. And so you tell me both to when I'm bombastic. Tell me fantastic. Put me on my back, she says I'm Mr. Rowe. Tell me fantastic. She put me on my back, she says I'm Mr. Boom. Boom, 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 bombastic. Tell me fantastic. Set your mind at ease. Don't you take the life of bottom, baby, please. Don't you play with my nose, cause I'm a hachoom sneeze. Well, are you are the bun and me are the cheese. And look on me, after all, the baby love you the bees. I'm bombastic, really fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Rowe. Oh, oh, man, really fantastic. Touch me on the box, she says I'm Mr. Boom, boom, boom. Mr. Lover, lover, girl. Mr. Lover, lover, lover. Now Mr. Lover, lover. She call me Mr. Bombastic, really fantastic. Touch me on the back, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on the back, she says I'm Mr. Bombastic. Why? Girl, your admiration lit a leap from the start. With some physical attraction, girl, you look to feel it spark. Come on, a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, 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 chop near far. I'll get straight to the point, like a aura, aura, dog. Come lay down on the jacuzzi and get some bumble bar. Only sound you will hear is the beating of my heart. And you will, and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic. Nothing on the box, it says I'm Mr. Rowe.
Oui, je sais, j'ai été un peu violent sur ce sujet, mais moi je tenais à dire que bah voilà quoi, la couverture qui a été faite par la chaîne télé était déplorable. Ce que vous venez d'écouter, c'est un remix de Rage Against the Machine, Killing in the Name of et Chaggy Bombastic par DJ Zebra, ce qu'on appelle un bootleg, et il officie sur une radio parisienne qui s'appelle WeFM. C'est un peu comme si on avait retiré à FMR les couilles et qu'on avait rajouté la pub à la place.
Tu sais qui est DJ Zebra, hein. Zebra, c'est un ancien des ragamins de Billy the Kick également.
Oui, exact. Hein,
qui est plus breton, on va dire, que parisien. Hein. D'accord.
Ouais, ouais. Bah, on salue, voilà.
On peut se procurer ses bootlegs, hein, sur son site, djzebra.com, je crois, c'est ça.
djzebra.free.fr. De toute façon, voilà. si vous allez sur le site web de la radio, non, il y a toujours pas le lien. Et vous faites chier, les gars. Hein. Donc, si vous allez sur deskreach.net, vous pourrez vous abonner en podcast, voilà, à l'émission, mais aussi ben vous avez les résumés de l'émission et on mettra le lien justement direct vers ce bootleg. Voilà, du sport, tu voulais faire une précision.
Ouais,
je crois.
Quand tu parlais de spoiler un petit peu la troisième saison de 24, hein.
C'est la deuxième.
la deuxième.
Ouais, c'est la deuxième, 24, la bombe. La troisième.
Ah non, la troisième saison, c'est celle qui démarre, hein, qui va commencer à être diffusée par TF1. Ben oui, voilà. Là, cet été, là. Hein. En catimini, comme d'habitude. En version française merdique, comme d'habitude. Bon, merci TF1.
Je trouve que la VF est pas trop merdique.
Il faut attendre.
Ce qu'il y a, c'est qu'il coupe.
Ouais, ouais. Il faut attendre, donc, la rentrée Canal+, hein, pour la nouvelle saison encore inédite en France, la saison 4. Où dans cette saison 4, Jack Bauer il s'est fait virer carrément parce que bon, dans la saison 3, ça pète un maximum partout. Il a foutu le bordel et donc il se fait virer de la section antiterroriste et il se retrouve rattaché au ministère de la Défense auprès de William Devane, l'acteur qui joue excellent, hein, William Devane. Le président se fait carrément kidnapper, hein, on le revoit au bout d'un certain nombre d'épisodes, pendant 6 épisodes, hein, enfin Dennis Haysbert devait certainement avoir un tournage de film pendant ce temps-là, donc on a aménagé le scénario. Et en plus, Jack Bauer commet l'adultère avec une femme mariée qui n'est autre que l'actrice Kim Raver. Kim Raver qui officiait avant dans New York 911. Eh ouais.
Bon, il y a pas.
La cinquième saison est en cours de tournage.
Et ben voilà.
Ce sera la dernière.
Du sport en plus, vous a bien cassé tout ça. Voilà, ça s'appelle un gros spoiler. Comme quoi, comme dit le proverbe.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Eh ben c'est pas vrai justement. Je voulais démarrer par ça justement, par la couverture télévisuelle de ce Tour de France, hein, qui va s'achever. Ouais. Demain, et je vous avais dit il y a 3 semaines, enfin un petit peu, juste avant le début du tour. Je vous avais dit que il y avait donc la brochette de présentateurs qui était entièrement modifiée, que ce soit sur France 2 ou sur Eurosport, hein, les deux chaînes qui diffusent l'intégralité du tour, c'est-à-dire toutes les étapes en direct pratiquement intégrales, hein, depuis.
Enfin, celles qui ont l'exclu, quoi.
Ouais. Enfin non, c'est le même topo, hein, que tu peux suivre soit sur Eurosport, soit sur France 2 tous les jours le Tour de France. Hein, de toute façon, hein, y a des heures de prise d'antenne qui sont légèrement différentes, on va dire, mais c'est pas mal. Et donc là, on était quand même un petit peu rodé avec les commentateurs, hein, que ce soit Thévenet avec Christian Prudhomme, et il y avait eu aussi l'intermède du petit jeune là juste l'année dernière. Exit Thévenet, on a décidé de mettre du lourd, et comme lourd, eh ben, on a mis Sagnier pour la version caution journalistique sportive, ainsi que Jalabert qui en avait marre de faire le tour au cul d'une moto, quoi. C'est putain, je suis plus à l'aise.
Et ici je me prends le pot d'échappement de la voiture Ricoré.
Et Jalabert donc pour la caution sportive, donc il excite les vieux, hein, Thévenet et tout, à dégager et tout, quoi. Alors que quand même, bon, pour le tour et pour la crédibilité, il faut dire que Thévenet c'est quand même un mec qui a gagné un tour, alors que Jalabert ne l'a jamais gagné, ce tour. Bon, ça c'est pour être méchant. Enfin, toujours avec la caution syndicat d'initiative et de tourisme, Jean-Paul Olivier, la mémoire vivante du Tour de France, et également un mec qui nous renseigne sur notre beau pays qu'est la France. C'est absolument magnifique, hein. Jean-Paul Olivier, on t'aime ici, on peut te le dire.
Voilà.
Et on avait sur Eurosport donc, eh bien, la brochette de l'an passé et des années précédentes, hein, avec Patrick Chassé comme journaliste, ex-cycliste d'ailleurs, mais plutôt pistard que routier, et comme caution sportive, eh bien, d'anciens grands de la petite reine, comme Jean-François Bernard, qui est passé à l'ennemi vu qu'il est sur l'équipe TV maintenant. Il y avait également Laurent Fignon pour certaines épreuves, Vincent Barthaud, on peut dire que là, vraiment, ça bougeait, c'était pas triste, c'était animé, il y avait des vannes, il déconnait, enfin bon, c'était ton bon enfant, on va dire, hein. C'était assez agréable à regarder.
C'était vraiment
année,
le côté populaire, justement, c'était bien retranscrit.
En plus, retranscrit par des mecs qui savent de quoi ils parlent, ouais. Ok, hein, Fignon, 2 Tours de France quand même, Jean-François Bernard, c'était le futur, en principe, enfin, il a jamais été futur, il est toujours resté Jean-François Bernard, hein, et jamais un vainqueur de Tour de France, et Barthaud qui avait également passé pas mal de jours en jaune sur les différents tours qu'il avait auxquels il avait participé. Et là cette année, on se disait ça va quand même être un petit peu dur, parce que on va nous mettre encore Patrick Chassé, d'accord, lui c'est normal, il est là, c'est le journaliste de permanence, on va dire, de Eurosport. Et du côté de la caution sportive, du lourd, du gros, du tatoué, avec Cyril Guimard, éleveur de champions, et Richard Virenque.
Alors c'était la grosse question. Alors,
Richard Durand qu'on
pouvait. Est-ce qu'il peut dire autre chose que malgré moi, à l'insu de mon plein gré
Absolument, absolument. Hein, il est vraiment très très étonnant. Encore un petit peu plus étonnant d'ailleurs que le prince Albert qui a arrêté de bégayer à partir du moment où il était prince.
Virenc, ça s'appelle un cassage ça, en règle.
Virenc, non, mais qui m'a vraiment étonné. Hein. Bon, on va pas dire que du jour au lendemain, bien, il est devenu un des défenseurs de la langue française digne de faire partie des immortels à l'académie. Non, 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 loin de là quand même. Hein, il y a quand même quelques petits plantages, hein, quelques erreurs de syntaxe, de grammaire, d'orthographe. Ça se voit pas trop, heureusement. Et encore. Mais en tout cas, on peut dire que c'est le mec qui suit le mieux la course hein, de l'ensemble des commentateurs que j'ai pu voir, qui analyse le mieux l'état du peloton, qui analyse le mieux la situation hein, sur le moment donné, hein, qui peut prévoir des coups, qui prévoit un petit peu à l'avance comment ça peut se dérouler et qui a une caution technique vraiment irréprochable à ce niveau-là. Là, il y a vraiment rien à dire. Hein.
Surtout qu'il doit bien connaître justement la technique du terrain, de l'intérieur et tout ça.
Il connaît en plus beaucoup la plupart du peloton. Ce sont des gens qui, l'année dernière, couraient avec lui, hein, contre lui. Donc, il n'y a pas de problème. Et là, vraiment, il m'a vraiment agréablement surpris. Et alors, ce qui est très très bien et ce qui donne l'avantage hein, aux commentateurs d'Eurosport sur France 2, hein, qui sont vraiment trop lèche-bottes. Hein. J'ai pas dit subit, mais je le pense un petit peu quand même. C'est qu'il y avait également l'autre caution sportive, Cyril Guimard, hein, qui est là et qui fait office de père fouettard avec vraiment des sentences, des fois un petit peu dures pour les coureurs. Hein. Bon, on sent l'éleveur de champions, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème. Il en a maté d'autres, le père Cyril. En tout cas, bon, sur ce tour 2005, on peut dire, victoire est donnée à Eurosport. Hein, en ce qui concerne les commentaires généraux, il n'y a pas photo. Et France 2, l'année prochaine, il y a intérêt à mieux faire, hein, quand même. Bon, alors, on va attaquer un petit peu de la télé. On va continuer de la télé, mais avec, on va être plus dans le polar. Hein, ça va être pratiquement que du polar, du début jusqu'à la fin. Hein, tout d'abord.
Ah, mince, j'aurais su.
Tout d'abord, quelques petits trucs, un petit peu de western quand même, hein, c'est des rediffs hein, généralement, avec série documentaire en 6 parties, hein, des docu de 55 minutes à chaque fois, moins d'une heure. Et là, c'est une série qui était déjà passée, je ne me rappelle pas sur quelle chaîne française du service public, c'était déjà passé. Ça repasse à partir de mercredi prochain sur France 3. Alors comme c'est un docu, que c'est intéressant, bien entendu, on te fout ça, on te carre ça à 11h30 du soir quand tout le monde est dehors parce qu'il fait bon, ou alors et au pieu parce qu'ils sont trop crevés pour regarder la télé à cette heure-ci. Donc merci les gars, ça fait plaisir. Hein. On voit que Patrick de Carolis, nouveau président de France Télé, il a à cœur de faire passer la culture populaire.
Attends.
Parce que là, dans ce cas-là.
Du sport. Patrick de Carolis n'a été nominé que depuis 3 semaines. Il est même pas encore entré en fonction puisqu'il prend début septembre. Là, on en est encore à la grille qui est faite par l'actuel. Hein.
Bien sûr, je plaisante, mais enfin, en tout cas.
Mais
là,
c'est clair que ça fout les boules.
Il s'agit quand même de culture populaire car à travers ces histoires de fiction, on nous narre un petit peu l'histoire des fictions à la télé française en 6 parties. La première partie est consacrée aux séries policières, au polar, donc
yes.
Avec la totale, hein, Simenon, les 5 dernières minutes, Navarro, Moulin, toute la bande, ils sont tous là. Enfin, c'est fait par Patrick Jody, hein, qui dans ce domaine excelle vraiment.
Ouais,
donc il y a pas de problème, ça se suit. La première série, donc le premier épisode de ce documentaire en 6 parties, c'est donc mercredi prochain à 23h20 sur France 3 qui nous diffuse en bouche-trou cet après-midi un bon téléfilm hein, de la série britannique, ouais, puisque c'est écossais, Taggart. Mais là, Taggart avec une petite particularité, parce que si vous vous rappelez Taggart, hein, c'est une série qui a été tournée vers la fin des années 80, début des années 90.
Dont l'acteur principal est décédé, d'ailleurs.
À Glasgow, dont l'acteur principal, l'inspecteur chef Jim Taggart, interprété par Mark McManus, est mort en 94, il y a 11 ans déjà. Hein, et on se rappelle donc de cette série hein, qui décrit le Glasgow des fin des années 80. Donc,
c'est-à-dire la période crise, la période Thatcher.
Thatcher à fond les manettes, tout le monde est assez désabusé, le constat est clinique mais carré. Et l'inspecteur Taggart est vraiment quelqu'un qui, de par sa fonction et au travers des enquêtes qu'il mène et la vie qu'il mène, eh bien, est un mec un petit peu cynique, un peu désabusé comme ça, enfin qui ne perd quand même pas le nord. Hein. Il joue également dans cette série avec sa femme qui est dans un fauteuil roulant, et c'est sa vraie femme qui interprète ce rôle, car sa vraie femme dans la vraie vie est dans un fauteuil roulant, et donc il a intégré cet élément dans le scénario, et ça donne quelques histoires de temps en temps assez intéressantes, hein, quand sa femme est mise à contribution de manière un petit peu plus soutenue dans un scénario. Il y a eu environ une trentaine d'épisodes avec plusieurs périodes, on va dire, qui concernent surtout bien son adjoint. Dans les premiers épisodes, l'épisode 1 à l'épisode 6, c'est le sergent détective Peter Livingston, interprété par Neil Duncan, que tout le monde trouvait vachement bien, mais enfin lui ça lui a pas plu, donc il s'est barré et a été remplacé par de l'épisode 7 à l'épisode 27 par le sergent détective Mike Jardine. Jardine, on le connaît un petit peu mieux, il en a fait une vingtaine, interprété par James McPherson. Au décès de Mark Manus, qui à l'époque du tournage est déjà un petit peu malade, il est mort d'un cancer. C'est un mec qui fumait beaucoup, hein. Il fume d'ailleurs dans la série, on le voit. On a repris cette idée parce que la série était un petit peu courte et que pas mal de gens restaient sur leur faim, et que surtout ça poussait question concurrence, on va dire, entre les Écossais et les Anglais au niveau télé, hein, pour sortir des bonnes séries at home, hein, c'est-à-dire.
Faut peut-être expliquer comment ça marche la production en Angleterre.
On va pas tomber là-dedans.
Sur le service public, mais en fait la BBC
a des filiales locales,
voilà, par exemple. Voilà. Ainsi, il y a Glasgow, effectivement, où ils sont assez spécialisés dans les séries live.
C'est Scottish TV.
Il y a Bristol qui est spécialisé dans tout ce qui est animation. C'est eux qui font ces gros mythes et toutes les productions Hardman. Et donc c'est vrai que de ce côté-là, ils ont une obligation de qualité et vraiment de production.
Comme Taggart est pratiquement entièrement écossais. Bon, il y a bien des interprètes, il y a bien des gens dans le cast et dans le crew qui ne sont pas écossais, mais ça se passe à Glasgow, c'est toujours en Écosse, et c'est fait par Scottish TV. Donc ils se sont dit OK, on pourrait reprendre le filon, hein, peut-être même en tirant quelques petites images d'archives comme ça arrive dans un épisode. Et cette série repart en 1998, hein, pour quelques épisodes. Il y en a 6 qui ont été tournés dans un format un petit peu plus long, hein. Au départ, c'était des épisodes qui faisaient 1h, 1h10. On est monté jusqu'à 1h20, 1h30, 1h40, hein, par épisode. Ce sont des histoires complètes. D'ailleurs, Taggart est une série qui peut se suivre, pas forcément dans l'ordre, hein, parce qu'il n'y a pas tellement de suite au niveau des différents épisodes. Il y a quelques petits éléments, on va dire, intimes de la vie privée des personnages qui peuvent des fois être mal pris si on suit pas dans l'ordre, mais enfin bon, on peut s'y jeter comme ça. Et là, eh bien, s'il s'agit de l'épisode de cet après-midi, Les Foudres du Ciel, eh bien, qui est repris non pas avec Mark Manus, puisqu'en 99 il est mort depuis 5 ans, donc déjà bien bouffé par les asticots, mais par Mike Jardine, qui devient donc patron, hein, qui devient l'inspecteur principal, Mike Jardine, interprété donc par James McPherson, et dans le rôle du buddy, hein, du sidekick, eh bien, c'est l'intégration féminine avec Blitz Duff qui arrive à s'intégrer dans ce truc-là, avec également les inspecteurs adjoints qui sont pas dégueulasses, interprétés par John Michi et Colin McCready. Donc c'est vraiment du lourd, ça vaut le coup, rien que pour ça. De toute façon, on ne peut regretter qu'une chose, l'absence de Taggart, de Mark Manus. C'est cet après-midi à partir de 15h15 sur France 3.
Tu m'as pas relevé, mais en fait, Scottish TV, c'est le réseau ITV, c'est le réseau privé.
Ou Scottish, je sais pas, je me rappelle pas exactement. Enfin, c'est la télé publique quand même. Hein. Non,
ah, c'est la télé publique, d'accord. Donc c'est BBC Scotland.
Un truc comme ça. Bon. Ensuite, niveau rediff également. Ce soir, alors là c'est une mini-série américaine qui a eu plein de prix à l'époque, hein, ça a été énorme, qui s'appelle Lonesome Dove, hein. C'est Hollywood, hein, qui a produit cette mini-série, on peut dire que c'est le dernier western vraiment produit par Hollywood en fait, hein. Mini-série en 4 fois 1h35, hein, réalisée par Simon Windsor, hein, qui nous avait déjà fait des merdes comme Les Ailes de l'Enfer, des trucs comme ça, enfin bon, laissez tomber, rien à voir. Ça repasse sur TMC ce soir. Alors deux épisodes ce soir, donc 2 fois 1h35, et samedi prochain la même chose, les deux premiers partir et sur la piste avec un casting en béton. Même dans les films hollywoodiens, il n'y a plus ce casting en béton. Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Angelica Houston, Diane Lane, Danny Glover, Rick Schroeder, qu'on a vu comme détective Sorensen dans NYPD, saison 7 et 8. Robert Urich, Spencer for Hire, de l'écrivain Robert Parker, Frédéric Forrest. Tu te rends compte de ce casting qui tue de l'enfer, hein. 17 nominations aux Emmy Awards, hein, l'équivalent des Césars ou des Oscars, mais pour la télé, et 7 trophées, dont Robert Duvall, qui a eu l'Emmy Award pour le meilleur acteur de série, hein, pour son rôle dans cette série qui s'appelle Lonesome Dove. C'est ce soir sur TMC à partir de 20h50. Et alors maintenant, j'en ai encore toute une tapée, hein, figure-toi. Hein, je peux tirer jusqu'à 2 heures pratiquement.
Ouais, mais moi je peux plus écrire, j'ai plus de stylo, et en plus toi tu as quand même de l'actu sportive, quoi.
Ouais, mais enfin non, pas trop, quoi, on va dire.
Bon, d'accord, ok.
L'événement quand même qui m'a marqué cette semaine, je veux dire, hein, c'est que j'ai lu dans les journaux et tout le monde l'a lu, hein, c'est que Match TV s'arrêtera à la fin du mois d'août.
Ah,
fini,
oui, ça.
Match TV, Lagardère a perdu une bataille. Match TV, qui est donc la déclinaison télé de Paris Match, hein, qui fait partie, qui est un des fleurons journalistiques de l'Empire Lagardère. Et donc, comme Match TV, il n'y en a plus que pour un peu plus de 5 semaines.
Oui, puisque ils coupent l'émission le 31 août,
le 31 août.
Pour céder la place immédiatement, en fait,
profitez-en. À Gulliver. Profitez-en, je vais vous faire sélection spéciale sur une semaine de Match TV, des émissions immanquables. Alors déjà, une des émissions cultes de Match TV, c'est « Ça reste entre nous », animé par Jean-Marc Morandini, qui prend un invité comme ça et qui discute soi-disant pour essayer de lui faire dire lui faire sortir des trucs qui sortiraient pas en temps normal, hein, mais enfin bon,
tout
ça
est
reste
possible.
loin, c'est loin. Et l'invité à 18h30 en fin d'après-midi de Jean-Marc Morandini dans Ça reste entre nous, c'est Cathy Guetta.
Ouais.
The world is mine. À 20h45, non, Cathy, pas David.
Pas David, ouais.
À 20h45 sur Match TV. Equalizer avec Edward Woodward, hein, qui est quand même un grand acteur shakespearien britannique, d'accord, qui interprète donc le rôle de Bob McCall, un ancien de la CIA qui il prend des affaires privées comme ça, mais pour plutôt en redresseur de tort. Il faut que je
assez bonhomme, voilà. Et assez rigolo d'ailleurs.
Ouais. Mais le seul truc qui est qu'on sait pas trop, c'est pourquoi il a arrêté, et ça a pas l'air trop rigolo non plus. Et il faut noter que la musique d'Equalizer est de Stewart Copeland, le batteur de Police.
Ouais.
3 épisodes ce soir, hein, sur Match TV, la saison 4. Demain dimanche après-midi à 15h25 sur Match TV, Jusqu'au bout du rêve, un téléfilm de 96 avec Charlène Woodard et Lou Gossett Jr. Et c'est l'histoire vraie, romancée un peu, de Jackie Joyner. Jackie Joyner, c'est celle qui est morte, l'athlète qui faisait le 100 mètres et tout, et qui est morte assez jeune, là, comme ça. Là.
Celle qui était championne du pentathlon, non?
Non, qui était championne du 100 mètres. Oui. Et c'est donc son histoire vraie, hein, parce qu'il faut savoir qu'elle a été malade, qu'en principe, elle aurait jamais dû gagner, mais qu'à force, elle a pu se hisser jusqu'à la finale du 100 mètres de Barcelone, gagner, tout le bordel. Voilà, c'est demain sur Match TV à 15h25. Lundi soir, encore un excellent téléfilm sur Match TV à 20h45. Hostile Intent, un film de 97 canadien avec Rob Lowe, mon gars, et John Savage. Ah ouais.
Aïe.
Alors attends, ça c'est pour toi en plus, hein. 2 équipes d'informaticiens s'affrontent au paintball. Soudain, un troisième adversaire inconnu utilise des vraies balles.
Dingue,
ça c'est du pitch, hein. Mardi, toujours sur Match TV à 22h45, une autre des émissions phares de Match TV, c'est Tendance Amanda, animée par Amanda Lear.
Ouais. Bonjour.
Avec un patchwork de petits reportages, il y a le Carnaval de Sitges, il y a City Guide de Londres, une journée avec un rugbyman du 15 de France et un portrait de Cathy Ford. Ça continue toujours sur Match TV mercredi à 19h50 avec Tendance Amanda, qui sera un spécial guerre. Tendance Amanda, ça dure 50 minutes, hein, grosso modo. Et c'est suivi également par une autre des émissions phares de Match TV qu'ils ont piqué à TF1, hein. C'est Saga. Avec, là, c'est vachement rigolo de revoir les différentes coupes de cheveux de Stéphane Bern. On connaît Stéphane Bern maintenant parce que vous êtes des petits branchés conos qui regardent des canals et vous dites l'esprit canal, c'est trop trip et tout. Même Stéphane Bern, il est à fond dedans et tout. Et là, ça vaut le coup pour repérer un petit peu les coupes de cheveux de Stéphane Bern dans Saga, qui vous propose donc mercredi prochain à 20h45 un spécial Les princes arabes en vacances, avec le sultan de Brunei, le maharaja de Jaipur, d'Udaipur et de Jodhpur, l'Aga Khan, le sultan Bin Salman d'Arabie Saoudite, en vacances. Tout ça en vacances.
En pétrodollar.
Mercredi prochain. Jeudi prochain sur Match TV, ça reste entre nous avec un spécial. Ça reste entre nous. Jean-Marc Morandini reçoit Jean-Pierre Mocky. Là, ça vaut toujours le coup. Hein.
Ah oui, parce Mocky. Que Mocky, d'habitude, s'envoie.
C'est le bon client.
Et là, il va lui dire, eh ben toi aussi, t'as fait de la merde, alors ta gueule. Ça va, ça va envoyer.
Suivi à 20h45 d'un autre téléfilm excellent qui s'appelle Blackout. De 96 avec Brian Bosworth. Ah ouais mon gars, ça c'est du lourd. Et Brad Dourif dans mes bras mon gars, hein, c'est le rôle d'un psychotique dans un film, dans X-Files, dans n'importe quelle série, il y a pas de problème, tu prends Brad Dourif, il te fera un excellent psychotique. C'est le nouveau Roddy McDowall quoi. À l'époque dans les années 60, on avait Roddy McDowall pour jouer les starbés, hein, genre Anthony Perkins, hein, tu vois. Maintenant, on a Brad Dourif encore, il est encore vivant. Alors Blackout, c'est un mec qui est victime d'un accident de voiture, hein, qui se réveille complètement amnésique, mais d'étranges et d'effrayants souvenirs s'imposent à lui. C'est à 20h45 jeudi prochain sur Match TV et on termine avec vendredi prochain. Alors là, vendredi prochain, top class, c'est toute la journée devant Match TV. Ça commence à 13h45 avec un documentaire sur les deux visages de Jim Carrey. Ça, c'est des documentaires genre Hollywood Story, c'est-à-dire on dit bien, des trucs, les
c'est
proches.
C'est la légende dorée, voilà.
Ouais, c'est ça, hein, c'est les proches qui le connaissent ou les gens qui ont écrit un bouquin sur lui ou qui ont écrit un article sur lui, disent oui, mais il est comme ça et puis c'est génial et tout. Et puis quand il a changé, il était quand même bien. Hein. C'est suivi à 17h par un documentaire sur Sonny and Cher dans le même ordre. Et à 20h45, la saga, les grandes réussites, celui-là, il te tape le cul par terre. Les grandes réussites, quand tu vois la liste, les 2B3, les Spice Girls, Paul Bocuse, Saul Kersner, Chantal Thomas, les Hayek. Alors c'est pas la famille de Salma, mais c'est les Hayek, la Swatch, hein, et la Smart.
Les Trump, oui, enfin la Swatch, je pense que la Smart, pouf.
Les Trump, Anita Roddick, Lacrosse de Fortaba, Terence Conron, Luciano Benetton et Claudia Schiffer. Voilà, tout ça c'est sur Match TV la saison prochaine. Alors, voilà, j'ai pratiquement terminé. Et si tu veux, j'ai encore un hommage à rendre à quelqu'un qui a été un des plus grands en ce qui concerne le roman policier, qui est décédé il y a 15 jours, 3 semaines, je crois, hein, début du mois de juillet. Il s'agit de Salvatore Lombino, alias Ed McBain, qui s'est éteint il y a une quinzaine de jours, hein, je crois, 3 semaines. 79 balais quand même, le mec. Hein. Ed McBain, donc originaire de New York, il est né à Manhattan carrément, quand même, cet enfoiré. Il fait ses études, il interrompt ses études pour devancer l'appel pour s'engager dans l'US Navy, donc il termine la Deuxième Guerre mondiale dans l'US Navy. Puis, démobilisé, il reprend ses études, il obtient son diplôme et il va donc enseigner comme ça dans une école. Mais ça commence à être le super bordel et tout. Il tient pas longtemps, il tient un an ou deux ans et puis ensuite il se barre et il devient lecteur dans une firme d'édition, ce qui lui permet d'écrire des nouvelles. Ses premières nouvelles, il les écrit sous un pseudo, sous le pseudo de Evan Hunter. Bah ouais, connu quand même, hein, d'accord. Ouais, des fois, il est plus connu, on connaît plus Evan Hunter qu'Ed McBain.
C'est vrai.
Et il écrit un livre d'ailleurs qui est issu de son expérience de prof qui s'appelle Graines de violence. Graines de violence qui sera en 55 porté à l'écran,
ouais,
hein, sous le titre Blackboard Jungle par Richard Brooks. Commence à écrire donc sans avoir trop de style de prédilection ou de genre de prédilection. Il commence par un bouquin de science-fiction qui s'appelle Find the Feathered Serpent, chercher le serpent à plumes, et deux policiers, The Evil Sleep et The Big Fix. Et plus tard, il rencontre d'autres éditeurs, hein, qui leur proposent de prendre la suite de Earl Stanley Gardner, qui était l'auteur maison d'une maison d'édition. Earl Stanley Gardner, qui est le mec qui a créé Perry Mason, hein, qui était une grosse réussite au niveau des bouquins au départ, hein, au niveau de la série écrite avant.
Je crois qu'il y a eu un film avant que ça devienne une série, non ?
Non, je crois pas. Hein, c'est Earl Stanley Gardner qui a créé Perry Mason, hein, de toute façon, donc c'était bouquin. Et donc, pour le remplacer, il demande à Evan Hunter ou à Ed McBain d'imaginer une nouvelle série, hein, pour remplacer la série Perry Mason. Et qu'est-ce qu'il invente ? Il invente la vie des flics dans un commissariat. Et ça donne le 85e Precinct avec tous les tous les flics qu'on connaît, hein, pour les habitués de cette saga, il y a une cinquantaine de bouquins. Il a écrit au moins une cinquantaine de bouquins uniquement sur le 87e Precinct. Et il a écrit d'autres bouquins sous d'autres pseudos pour d'autres héros. Il y a également un cycle avec Matthew Hope, qui est un avocat installé en Floride. Ah, ça change radicalement de
New York. C'est pas du tout le même
et
style.
Et de la petite ville imaginaire d'Isola, hein, qui est un quartier de New York, mais qui n'existe pas. Hein, mais,
d'accord.
Tout est, ce qui se passe dans le 87e. Le 87e n'existe pas vraiment. Et la ville d'Isola dans laquelle ils enquêtent n'existe pas. À New York, c'est une ville imaginaire. Enfin bon, on croit deviner que c'est la ville de Manhattan, bien entendu. D'où il est issu. Au niveau des nombreux bouquins qui ont été portés à l'écran, déjà, c'est l'occasion de voir une des plus récentes adaptations d'un de ses livres, hein, Les Trafiquants de la Mort, qui est diffusé ce soir sur Paris Première. C'est déjà été diffusé, mais enfin, ça vaut le coup parce que c'est un téléfilm de 96 avec Dale Midkiff dans le rôle de Steve Carella. Hein, les inspecteurs du 87e, il y a Steve Carella, c'est le mec le plus connu. Il y a Bert Kling, il y a Meyer, il y a Cotton Hose également. Al Willis, enfin c'est Steve Carella le plus connu, interprété donc par Dale Midkiff, qui joue dans ce Trafiquant de la Mort en compagnie de Joe Pantoliano, Paul Johansson, et Andrea Parker, Miss Parker dans Le Caméléon. Alors, et je peux te dire qu'elle est pas mal déjà à l'époque, ça vaut le coup. Donc c'est ce soir, c'est Paris Première, tard le soir vers 23h. Steve Carella, qu'on a vu porté à l'écran dès 58, hein, Steve Carella, hein, dans un premier film qui s'appelle Cop Hater, du ballet en français, interprété par Robert Loggia. Puis c'est Robert Lansing en 60 avec The Pusher, hein, ou traduit en français, le titre français du bouquin, c'est Le Fourgue. Il y a eu Jean-Louis Trintignant, hein, ça, le film est resté quand même relativement connu parce que c'est Steve Carella, mais sans les autres. Hein, on a pris l'intrigue, on a gardé l'inspecteur principal, on a l'intrigue ne se passe pas à New York, se passe en France. C'est un film de Philippe Labro de 71, dont le titre anglais est 10 plus 1, avec Jean-Louis Trintignant, Burt Reynolds l'année suivante, wow, dans Fuzz, titre original du bouquin qui a été traduit par le titre français La Rousse, où Burt Reynolds donc interprète Steve Carella avec Raquel Welch, il y a Yul Brynner, il y a Tom Skerry dans le même film. Dans le cadre de Columbo également, on a repris des bouquins d'Ed McBain du 87e en les transposant dans l'intrigue à la Columbo, c'est-à-dire Exit Steve Carella, mais c'est tiré de bouquins, hein, d'ailleurs. Il y a le Undercover, hein, du roman Jigsaw en pièces détachées, hein, de 94. Excellent d'ailleurs, et très très bien fait. Hein. No Time to Die de 92, N'épousez pas un flic, celui-là aussi il est assez connu quand même, mais un transposé donc dans le cadre des Columbo avec Peter Falk. Il y a Donald Sutherland également, qui l'a interprété en 77 dans un film de Claude Chabrol, Les Liens du Sang, avec avec Stéphane Audran, Laurent Mallet, David Hemmings et Donald Pleasance. Et il y a également un autre film,
la brochette d'acteur qu'il a eu. Ouais, ouais.
Et comme vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez La 6, que La 6 a décidé de vous faire passer un été entièrement Michel Audiard et des films du lundi soir, scénario Michel Audiard et tout ça, Michel Audiard a également réalisé un film tiré d'un bouquin d'Ed McBain, c'est Le Cri du Cormoran le soir au-dessus des jonques, en 70, avec Michel Serrault, Bernard Blier, Paul Meurice et Maurice Biro, qui vient également d'un bouquin de Ed McBain. Donc, hommage, grand hommage, hein, à Ed McBain quand même. Et je termine avec l'acteur anglais de la semaine quand même. On peut le voir dans 3 séries en ce moment à la télé française. Il s'appelle Nathan Torrance. Et on peut le voir dans la nouvelle série sur M6, là, en deuxième partie de soirée, qui s'appelle Femme de footballeur. Dans le même ordre, puisqu'il joue également le rôle d'un footballeur. C'est tous les jours sur France 4 dans l'équipe de rêve. Tous les jours de 19h50 à 20h20. Femme de footballeur, c'est sur M6 le mardi à 22h05. Et on peut le voir également dans la série Les Condamnés, où il joue le rôle d'un maton. Là, il s'agit de la saison 3, donc c'est sur NT1, vendredi, il y a 2 épisodes en deuxième partie de soirée à partir de 22h25, mais là, dépêchez-vous pour le voir, parce que c'est la saison 3.
Et, je crois que c'est rediffusé sur... Je crois que c'est...
Il dégage à la fin de la saison 3, je peux vous le dire.
Je crois que Les Condamnés, ça passe aussi sur AB1 ou RTL9, je sais plus, il m'a semblé les voir, ouais.
On va préférer NT1, qui diffuse 2 épisodes par semaine,
et dans l'ordre.
Donc là, ça vaut le coup.
Ouais, ça vaut
on
le
peut
coup.
Suivre.
Enfin, bon... Donc, t'as terminé, oui, donc je laisse le temps de reprendre son souffle, et donc il est 13h14 sur Radio Éphémère 89.1 MHz, et je m'étonne d'ailleurs, tiens, personne n'a songé à parler de... Je crois que c'était vraiment beaucoup trop nul. Enfin bon, ceci dit, donc vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, c'était le supplément week-end avec Xavier Saint-Thomas, et je lui fais tous mes vœux quand même de rétablissement, parce que sinon, il va avoir du mal. Et zou, et...
Ouais, sinon... non,
je viens juste... de mettre le fond sonore de départ.
Ouais, c'est bon, on s'en fout de toute façon.
Ah.
Sinon, dans l'IB d'aujourd'hui, alors il faut savoir que l'IB est disponible tous les samedis de l'été avec
un supplément.
Un supplément BD, une BD inédite, 1,20€ le prix du canard, ou 6€ avec la BD. Mais dans la rubrique télé d'aujourd'hui, il y a une petite critique de Lost qui est assez gratinée, je trouve. Très très pertinente en tout cas, parce que ça rejoint tout à fait ce que j'ai pensé.
Il y en a plein qui n'ont pas aimé le côté tape à l'œil, le côté je t'en rajoute, etc. Le côté très grosse machinerie.
Très grosse machinerie, mais il n'y a rien dedans. Le scénario est complètement nul. Il n'y a que dalle.
C'est mauvais X-Files.
Ouais, c'est zéro quoi.
Et hop, donc ça tombe bien, donc c'est dans le Libé, je sais pas, là on s'est passé plein de bouquins entre nous, je sais pas si tu veux le Punisher, Ouais. Allez, je t'en remets une derrière, zou. Forbidden Zone, ça t'obligera, voilà. Ah so. À prendre ton temps avant de t'installer. Donc vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, le magazine supplément week-end revient samedi prochain à partir de midi, j'espère avec Thomas. Sachez désormais qu'on est aussi diffusé en podcasting, c'est-à-dire à la fois en flux Ogvorbis, en flux MP3, voilà, c'est pour ceux qui ont qui connaissent un peu leur ordinateur, ils se font plaisir, ils pourront nous écouter en différé. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, samedi midi. La suite des programmes sur Radio FMR, et ben sachez donc que du sport va tout de suite prendre la suite à 17h, c'est Vie d'Ordure, 20h, la Stétéro Experience, 21h30, Liquid Sky, 23h, Rugby Experience.
On va essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé durant la semaine dans le monde du sport. Il y aura les dopés de la semaine. C'est l'été, ils sont nombreux. Un petit peu de foot avec la Coupe à Toto. Du vélo avec les classements, les deux dernières étapes de ce Tour 2005. Un peu de moto, un peu d'auto si on a le temps. Et la télé sportive pour arriver jusqu'à 14h.